Bonjour à toutes et à tous, et nous voici revenus en direct du Forum des associations en coproduction avec les amis de l'Espace Jeune, avec Culture et Nature, pour vous proposer à nouveau des échanges, des discussions autour de thématiques associatives. Nous nous retrouvons à midi autour du plateau pour vous parler handicap et plus précisément cadre de vie, loisirs, sport pour les personnes en situation de handicap. Avec un plateau des plus beaux, pour être tout à fait clair, nous avons avec nous l'EEC, l'Hébreu étudiant cercle, c'est le club de tennis de table. Nous aurons Slimane, éducateur sportif, Julie qui est joueuse, qui joue en équipe de France, d'ailleurs sport adapté en tennis de table, qui est vice-championne de France également en 2015 et en 2017, un beau palmarès, on peut le dire. Nous avons également Xavier, moniteur de plongée avec une spécialité sport adapté, et donc il est moniteur au Kawan Handi Plongée. Et puis nous avons des APF, donc Guillaume, le directeur qui est juste avec nous, mais que nous ne devrions pas entendre beaucoup normalement. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit en arrivant sur le plateau. Moi, on ne va pas trop m'entendre. Eh bien, très bien, nous ne l'entendrons pas trop parce qu'il n'est pas venu seul. Il est avec Marilyn et Ahmed qui, eux, nous parleront également de cadre de vie et de loisirs quand on est une personne en situation de handicap. Voilà, le décor est planté à la radiopropulsion et à la réalisation. C'est l'ami Damien.
Vous écoutez Prospective à Évreux 102.4 dans le sud de l'Eure 95.9 et partout ailleurs sur prospective.net.
Voilà, en direct, en live et en public du Forum des associations, avec ce beau plateau autour des questions de cadre de vie, du loisir et du sport pour les personnes en situation de handicap. On va peut-être commencer, nous allons commencer cette émission avec un tour de table qui va présenter vos structures et puis le positionnement par rapport à la pratique en situation de handicap, parce que chacun n'a pas tout à fait la même fonction et la même façon d'aborder la question. J'ai envie de commencer peut-être par l'EEC, tennis de table. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Et puis, de quelle manière vous abordez cette question du sport adapté?
Alors, je m'appelle Slimane Boumédois, je suis l'entraîneur éducateur sportif de tennis de table du club d'Évreux. Et donc, du coup, on est situé au niveau du gymnase du Canada, à Évreux, lycée Sangor à côté. Moi, je suis tombé dans le sport adapté vraiment par hasard. On avait une structure qui n'accueillait pas de personnes en situation de handicap. Et j'ai fait la connaissance de Julie, il y a quelques années, qui a pointé le bout de son nez dans notre structure. Et on a commencé à s'adapter et apprendre à travailler avec ce public-là. Voilà. Donc nous, après, présenter autre chose, on est une structure normale, entre guillemets,
ordinaire. Voilà, j'ai appris ce terme-là il y a peu de temps en travaillant avec des structures.
Désolé,
dans le handicap. Non, mais bon, on est là justement pour en discuter, justement.
Voilà, donc structure classique, entre guillemets, et donc on a évolué avec le temps. Je me suis formé un petit peu, j'ai passé des petites formations pour travailler avec ce public. Et sincèrement, très belle surprise. Moi, je suis très satisfait de travailler avec Julie, par exemple, aujourd'hui, et puis les résultats en parlent.
Oui, parce qu'il y a un beau palmarès en sport adapté sur le C tout de même. Il y a du champion. Je ne suis pas très au point sportivement parlant, mais je crois qu'il y a un beau palmarès.
Oui, s'il faut en parler, on a Julie qui a un très beau palmarès au niveau français. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, elle n'a pas le droit d'évoluer au niveau international parce qu'elle n'a pas les conditions requises pour le faire.
On en reparlera un peu plus tard, oui, tout à fait, mais c'est un point important.
J'ai une deuxième joueuse qui s'appelle Maud Pinchon, qui a 14 ans et qui a participé au championnat du monde en sport adapté de tennis de table. Et elle est revenue de ce championnat du monde avec 3 médailles.
Ouais. Donc, voilà, c'est plutôt pas mal quand même. Ouais, c'est exactement. Plutôt pas mal comme palmarès. On est un club sur Évreux hyper bien positionné par rapport au tennis de table en situation de handicap ou pas?
Hyper bien positionné, je ne sais pas. ça, c'est une question qu'il faudra se poser peut-être plus tard, mais c'est une structure qui est en pleine évolution dans le milieu. Voilà.
Très bien. Julie, avec nous, alors Slimane vient de nous parler un petit peu de comment ça fonctionnait. Vous pratiquez le tennis de table depuis longtemps ?
Ça fait un peu 10 ans que je pratique le tennis de table.
D'accord.
En fait, j'ai découvert le tennis de table quand j'étais hospitalisée. Parce que j'étais hospitalisée à l'hôpital de Navarre de 2011 à 2014. Et du coup, j'ai eu la chance de rencontrer Jean Pochon, qui est éducateur sportif là-bas, et qui m'a fait découvrir plein de sports. Et je suis tombée dans le tennis de table comme ça, en fait, par hasard.
Très bien. Je vais poursuivre mon tour avec, alors peut-être Guillaume, la présentation des APF. Qui sont les APF, même si c'est une association qui est reconnue maintenant. Ouais, je sais, vous aviez dit que vous n'alliez pas parler beaucoup, mais juste sur la présentation des APF. Après, promis, je vous pose plus de questions à vous.
Très rapidement, bonjour. Effectivement, APF France Handicap, grosse association nationale qui a la particularité d'avoir dans chaque département une délégation, c'est-à-dire une représentation du mouvement associatif des adhérents et qui est là pour la défense des droits, les revendications et aussi la rupture de l'isolement. Enfin voilà, dans le champ, on œuvre très largement dans le champ du handicap, donc à la fois sur le sport, mais la plupart du temps avec des partenaires. C'est-à-dire qu'on va effectivement aller frapper à la porte des fédérations sportives pour voir les activités qu'on peut mener. On propose nous-mêmes quelques activités, mais de manière réduite. Voilà, c'est plus dans le cadre de la rupture de l'isolement qu'on va proposer un certain nombre d'activités. Voilà.
Très bien. Des APF, Ahmed est avec nous aujourd'hui. Bonjour Ahmed.
Bonjour.
Alors, vous, par exemple, est-ce que vous fréquentez les APF depuis combien de temps vous fréquentez les APF et qu'est-ce que vous y trouvez aux APF?
Depuis une dizaine.
Une dizaine d'années.
Pour
le coup, je veux bien un petit complément.
Je vais me permettre.
Oui, je vous en prie.
Donc, en fait, c'est la possibilité de voir des personnes avec des handicaps différents. C'est ça? J'ai bien compris? Non. Ah, j'ai mal compris. Ça m'arrive aussi.
Pour avoir des moyens de faire beaucoup de choses.
Donc là, j'ai mieux compris. En fait, il aime bien se battre pour obtenir des moyens pour faire des choses au même titre que n'importe quelle personne normale.
Eh bien, c'est tout à fait légitime de surcroît.
Ouais.
Ce qui est totalement normal, effectivement. Ah oui, vous pratiquez le sport aussi, Ahmed?
Oui. Je veux du foot et de la danse.
De la danse et du foot. Très bien. Ce qui est plutôt des pratiques intéressantes. Du coup, vous le pratiquez où, le danse et le foot? Parce que j'imagine que c'est en sport adapté.
Je pratique à Gaillon.
À Gaillon pour le foot.
Et la danse, c'est à Villeneuve. À Villeneuve, c'est en région.
En région parisienne.
Très bien.
Et c'est impressionnant de voir Ahmed danser. Il fait partie d'un crew de danse urbaine et je peux vous assurer que c'est très, très impressionnant.
Ouais. J'imagine que c'est essentiel d'avoir des activités, on va dire, alors pas forcément ordinaires parce que c'est dans le cadre d'un sport adapté, mais j'imagine que c'est essentiel d'avoir des activités sportives, culturelles, d'expression en fait tout simplement.
Oui, c'est important d'amener à oublier le handicap.
Ça fait oublier le handicap, effectivement.
comme tout le monde.
Ben exactement. Ça, vous dites comme tout le monde, ça me fait penser à une phrase. On avait l'occasion de travailler sur un atelier avec des personnes en situation de handicap. Et il y a une phrase qui m'avait marqué. Une personne qui m'avait dit qu'elle était en fauteuil et qui avait de grosses difficultés de déplacement. Et elle me disait, on est différent comme tout le monde. Et j'aimais beaucoup cette phrase de « on est différent comme tout le monde ». Et effectivement, pratiquer une activité comme tout le monde, c'est aussi essentiel. Marilyn, bonjour. Vous aussi, vous fréquentez les APF.
Ça fait plus de 10 ans, oui.
Et ça fait plus de 10 ans. Et puis vous avez pris des responsabilités, si je comprends bien.
Oui, deux en particulier. Je suis représentante du CAPFD, c'est-à-dire qu'au moment des réunions dans la CAPFD, dans les locaux, s'il y a quelque chose, ça me remonte à moi. Et je suis obligée de le dire aux réunions.
Mais vous faites bien, oui, c'est la fonction.
Et la deuxième, c'est la sous-commission d'accessibilité qui est à Évreux, que aussi que je fais partie une fois par mois. J'aime bien ça, je m'investis beaucoup là-dedans parce qu'il y a beaucoup de cabinets de médecins qui ne sont pas adaptés. Il y a des pharmacies qui ne sont pas adaptées encore. C'est lamentable.
Surtout quand le milieu sanitaire, le milieu médical qui devrait être à la pointe, en principe, justement, d'accueillir les différences, n'est pas forcément adapté, même en termes d'accès aux soins, finalement.
Pas du tout, des fois.
Et alors, du coup, les APF, et à travers la commission à laquelle vous siégez, vous êtes entendu, vous avez la sensation d'être entendu.
Parce que quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je sais quand même leur dire. Après, ça se discute on est une dizaine, ça se discute entre nous, et c'est quand même moi, un peu, qui arrive à avoir le dernier mot.
C'est bien, ouais, faut pas le laisser aux autres, vous avez bien raison, Marilyn. Je continue le tour de présentation avec les Kawan Handi Plongeurs. Nous sommes avec Xavier, vous êtes moniteur.
Bonjour.
De plongée spécialisé sur l'adaptation au handicap. En quelques mots, que font les Kawan Handi Plongeurs? Et puis c'est quoi cette spécificité de moniteur de plongée avec la spécificité handicap?
Alors les Kawan Handi Plongeurs sont un des premiers clubs spécialisé dans l'enseignement de la plongée enfant et pour personnes en situation de handicap. Historiquement, les Kawan sont issus du club de plongée de la base aérienne 105 d'Évreux. En 2000, ils ont pris leur indépendance pour des raisons de budget, demande de subvention et ainsi de suite. On est toujours hébergé sur la base aérienne 105 d'Évreux. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il est tout à fait possible d'enseigner la plongée sous-marine, qui est déjà par beaucoup considérée comme un sport extrême, à des personnes en situation de handicap, aussi bien sur des handicaps physiques que cognitifs. Il y a des normes, il y a des choses à respecter, il y a beaucoup d'échanges avec le médecin, entre autres, mais aujourd'hui, on est capable d'emmener des gens jusqu'à des profondeurs de 20 mètres pour aller voir de superbes fonds sous-marins, y compris des gens qui ne l'imagineraient pas au début. La plongée pour personnes en situation de handicap exige des moyens, d'abord humains, puisqu'il faut être deux moniteurs pour encadrer une personne en situation de handicap. C'est un milieu qui n'est pas notre milieu naturel, la plongée sous-marine, qui demande déjà pour des plongeurs classiques un certain effort d'adaptation. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut être pour une personne en situation de handicap. Par contre, derrière, on a un retour psychologique énorme. Énorme. Pourquoi ? Parce qu'on fait abstraction de beaucoup de facteurs mécaniques, entre autres, par rapport à des personnes qui ont des handicaps physiques, on fait abstraction du poids, même si le matériel représente un certain poids. Et puis pour des personnes qui sont en situation de handicap psychologique, et ben derrière il y a un gros apport psychologique, puisque la plongée se rapproche en termes de respiration à de la sophrologie ou des choses comme ça. Et du coup on a des gens qui se retrouvent très très épanouis dans la plongée sous-marine.
Ce sont des pratiques sportives assez extrêmes. Je n'ai pas obligé de le faire de manière extrême, mais en tout cas, il y a effectivement le contact avec l'eau, il y a la respiration, il y a l'appréhension du corps, il y a tout un tas d'éléments qui finalement font tomber tous les repères qu'on pourrait avoir de manière ordinaire.
Alors, pour les personnes en situation de handicap en plongée, parfois ces repères sont à l'origine du handicap. Et comme on en fait un petit peu abstraction dans la pratique de la plongée, ça leur permet de se retrouver comme tout le monde, en faisant abstraction du poids, en respirant comme tout le monde, et ainsi de suite. Donc ce sont bien souvent pour les plongeurs une manière de se retrouver et à pratiquer la plongée sous-marine comme tout le monde.
Alors moi, je voulais revenir sur cette notion de handicap, parce que quand on parle de handicap, on n'a rien dit. On dit tout et on dit rien en même temps. Vous le disiez, il y a les handicaps physiques qui paraissent peut-être évidents comme ça au prime abord pour le grand public, mais vous évoquiez les handicaps cognitifs, psychiques, il y a tout type de... Il y a toute la palette de handicaps, du handicap temporaire aussi, ou handicap... j'allais dire sur toute la vie, il y a plein de choses qui existent. Moi, est-ce qu'au bout d'un moment, on pourrait définir autour de la table, finalement, cette notion de handicap, est-ce qu'à chaque personne, à chaque personne, en fait, il y a une adaptation spécifique, ou au bout d'un moment, il y a de grandes règles, un petit peu, de se dire, face au handicap, il y a telle ou telle manière d'aborder. On a deux éducateurs sportifs qui ont cette vision. Et puis aussi, on a des personnes concernées par cette question qui peuvent aussi nous éclairer. Quand on parle de handicap, finalement, est-ce que je me trompe quand je dis qu'on n'a rien dit, quand on dit juste handicap, et que finalement, à travers le niveau d'handicap, le sens qui est clairement en difficulté, on doit adapter différemment, ou c'est une philosophie générale qu'il faut prendre. Marie-Lyne, je vois que vous êtes prête à éclairer ma lanterne.
Quand on veut des appartements, c'est tout un problématique parce qu'il faut demander au bailleur, c'est quand on fait l'état des lieux et la visite qu'il faudra par la suite adapter en conséquence l'appartement.
C'est-à-dire, on choisit un appartement et ensuite il est adapté à la personne,
par
c'est ça?
Par rapport à l'handicap, parce que chaque handicap est différent et je vous assure que ce n'est pas facile, c'est tout un parcours.
Alors, par exemple, ce parcours, on parle de logement, là. Prenons l'exemple du logement. Voilà, Marie-Lyne, en plus, vous travaillez sur ces questions-là, hein, sur notamment les commissions. Sur la question du logement, par exemple, comment ça se passe? Quel est le parcours qui peut être le parcours
Alors,
du combattant, éventuellement?
Alors, quand on veut un appartement et qu'on a un fauteuil, qu'il soit manuel ou électrique, il ne faut pas qu'il ait une marche, il faut qu'il soit ras du sol. Il faut que les portes soient assez larges. Et les portes ne sont pas toujours assez larges. Donc, des fois, on ne peut pas rentrer dans les appartements. Dans les nouveaux, oui, maintenant. Par contre, il y a un gros problème dans les appartements, c'est que les portes des chambres, on n'a pas le droit d'aller dormir dedans, dans les chambres. On dort dans la salle.
C'est interdit. Voilà, c'est la largeur des portes, c'est ça, qui ne sont pas adaptées. C'est-à-dire que la porte d'entrée peut être adaptée, l'accès par rampe ou par ascenseur ou par, en tout cas, aménagement des entrées, c'est possible, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a un dernier détail, c'est celui de la chambre.
Il y a beaucoup de gens qui se plaignent par rapport aux chambres, qui sont obligés de dormir dans leur salon.
D'accord. Alors ça, vous me dites, même dans les appartements récents, maintenant
Là, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de problème. Bon, voilà. Mais si c'était quelqu'un, malheureusement, d'imposant, je crois qu'il aurait un problème aussi. Elles ne sont pas plus larges parce que c'est 90 cm de large.
C'est ça, et si on a un fauteuil plus large ou si l'équipement...
Pour X raison.
Pour X raison, tout à fait, l'équipement ne peut pas permettre forcément d'accéder. 90 cm, c'est même pas un mètre, hein, comme on pourrait dire.
Les ascenseurs dans les logements sont souvent en panne. C'est la bataille pour pouvoir avoir l'ascenseur. Moi, j'ai vu une fois un mois et demi avant qu'ils réparent l'ascenseur.
Et quand on est en situation de mobilité réduite...
On reste chez soi.
Et c'est juste inentendable.
Voilà, mais moi, j'ai toujours des provisions, des ressources chez moi. Mais ceux qui prévoient rien, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire.
Alors ça, c'est à travers l'appui des APF, par exemple, que vous pouvez, notamment à travers les commissions, défendre et insister sur ces problématiques liées notamment à la mobilité, là, en l'occurrence.
Oui, exactement. C'est exactement là, ça.
Je voulais revenir un petit peu sur cette notion de handicap, parce qu'on parle de handicap, mais moi j'ai la sensation qu'on serait quasiment obligé de mettre un S à la fin, quoi qu'il arrive, quand on en parle, parce que d'une personne à l'autre, d'une particularité à l'autre, finalement, ce ne sont pas les mêmes solutions qui doivent être envisagées. Est-ce que, j'ai envie de me retourner vers les éducateurs sportifs, finalement, est-ce que, finalement, vous avez un protocole d'accueil de personnes en situation de handicap, on n'y déroge pas, on prend point par point et c'est tout, ou est-ce que, évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça?
Alors, oui et non, pour la partie plongée sous-marine. Parce que déjà, pour la plongée sous-marine, il faut être capable, dans l'enseignement de la plongée, de s'adapter à tous les élèves. La première qualité du moniteur, même pour des personnes qui ne sont pas en situation de handicap, c'est être capable de s'adapter dans son enseignement en fonction de l'assiduité, la rapidité, l'acquisition des gestes, et ainsi de suite. Donc j'aurais tendance à dire que dans la plongée sous-marine, soit on est tous handicapés, soit personne ne l'est. Parce que l'enseignement de la plongée à des personnes en situation de handicap, elle est un petit peu différente, mais les bases sont quand même très très proches de ce qu'on fait avec des enfants, des personnes en situation normale, et ainsi de suite. Il y a un champ réglementaire un petit peu différent, voilà, ça faut pas le nier, il y a un champ réglementaire un peu différent, mais voilà, moi j'ai pas tendance à considérer les personnes à qui j'enseigne, comme je leur dis, hein, ils progressent d'une manière différente, plus ou moins vite, mais on observe les mêmes, grosso modo, les mêmes phénomènes, les mêmes choses que dans l'enseignement de la plongée pour des personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Ce qui fait que c'est plutôt valorisant pour eux, parce que tout compte fait, ils sont pratiquement sur le même pied que tous les autres plongeurs.
Vous, Slimane, sur le tennis de table, on aborde de manière globale ou c'est individualisé?
Non, c'est vraiment dans sa globalité. Moi, pour ma part, j'ai pas eu l'impression d'accueillir des personnes en situation de handicap. J'ai accueilli des personnes qui venaient faire une activité physique. Et je parle pour moi. Après, c'est vrai que moi, j'ai trois athlètes avec qui je travaille tous les jours de manière classique, quoi. C'est la pratique du tennis de table est faite comme pour tout le monde, quoi. Avec la même phrase que tout à l'heure. Maintenant, aujourd'hui, je rencontre des problèmes, c'est que je ne pourrais pas accueillir toutes les personnes en situation de handicap. Ma salle d'entraînement est en haut d'un escalier qui est de peut-être 30 ou 40 marches, et du coup, je pourrais peut-être pas accueillir des personnes en fauteuil. Donc ça, ce serait peut-être une problématique déjà. Après, c'est vrai que sur la pratique en elle-même, c'est sûr que moi, je leur ai appris le tennis de table comme pour les autres. Comme vous le disiez juste à l'instant, pareil, je fais pas de différence. C'est sûr qu'après, je m'adapte par rapport à la personne et non pas par rapport à son handicap. Donc, j'ai vraiment pas l'impression de travailler avec des personnes en situation de handicap. Voilà. Donc, vous pourrez en parler avec Julie.
C'est exactement, j'allais interpeller Julie.
Je dirais que c'est un peu ce qu'elle ressent aussi, je pense.
C'est justement, j'allais interpeller Julie. Vous, vous pratiquez le tennis de table dans ce qu'on pourrait appeler la catégorie sport adapté. Quelle est la différence pour vous d'appréhension? Quelle est la différence de fonctionnement? Ou qu'est-ce qui a été adapté, vous, dans votre pratique du tennis de table?
En fait, moi, mon handicap, c'est un handicap psychique. Donc, je souffre d'une schizophrénie. Et après, j'ai pas de difficulté dans la compréhension des choses. Par contre, dans les émotions, en fait, plutôt. Je gère moins bien mes émotions que la compréhension. C'est compliqué pour moi de... Par exemple, quand je suis en demi-finale ou en finale... C'est compliqué pour moi de gérer mes émotions, en fait.
Pourtant, il y en a, hein, sur une finale ou une demi-finale. J'imagine qu'il doit y avoir la pression.
Voilà.
On doit pester contre soi quand on rate un service ou un renvoi.
Et je suis très, très... Je me fatigue assez vite, quand même.
Oui, il y a ça aussi, parce que les émotions, ça fatigue au bout d'un moment. Quand on est en hyper-émotion, j'imagine que ça va pas être évident. Oui. Du coup, sur les entraînements, sur la façon de jouer de manière régulière, comment vous l'abordez dans vos entraînements?
Moi, en fait, on m'a accueillie à l'EC comme une personne normale,
ordinaire,
en fait.
Oui,
ordinaire, voilà. Et j'étais très bien accueillie. Et je m'entraîne avec des jeunes, des moins jeunes. Et mon handicap, il ne se voit pas, quoi. On ne me pointe pas du doigt, quoi. Je suis une personne ordinaire, en fait, dans le club.
C'est plutôt pas mal. Juste, faut pas trop vous faire perdre dans la suite, ça pourrait être compliqué. Non, pardon, je vous charrie un petit peu, Julie. Oui, non, mais c'est aussi le panel, quand on parle de handicap, au bout d'un moment, de se dire qu'il y a une différence entre le déplacement, et vous l'évoquiez, Slimane, à l'instant, de dire ne serait-ce que l'accès à la salle sur les marches pour y accéder. Pourtant, il me semble qu'il y a des lois d'accessibilité, quand même, qu'on essaie de faire valoir. Oh là, Marilyn va reprendre le micro, je crois, non, sur ces questions-là. Mais je vous en prie, hein, justement. Il y a quand même des lois d'accessibilité quand même qui existent aujourd'hui.
Il y en a beaucoup qui ne les respectent pas encore.
Alors,
parce qu'on a fait, il y a eu une année, je ne sais plus c'est quand, ça fait plus de 3 ans, on avait demandé à ce que les choses soient accessibles pour nous, pour tous les handicapés, même les handicaps qui ne se voient pas. Et il y avait un devis à faire. Selon le devis,
Et ben, après, comme les devis, ça monte très très vite, les travaux, et il y avait une certaine somme, et si ça dépassait, et ben, y avait une dérogation. Mais comme j'en reviens, il y en a beaucoup qui n'ont pas écouté l'accessibilité. Et il y a beaucoup de choses dans toutes les villes en France, malheureusement, qui ne sont pas adaptées encore, qu'il va falloir encore se bagarrer avec beaucoup de temps et d'acharnement. Et c'est vrai que c'est un petit peu récurrent.
Est-ce qu'en 2021, quand même, les choses ont avancé? Est-ce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, en 2021, quand même, même s'il y a toujours des terrains à conquérir, hein, le combat n'est pas fini, ça c'est certain, mais est-ce qu'on peut se dire qu'on est arrivé à un niveau, on va dire, entendable? Alors peut-être que mes mots vont vous heurter, j'espère pas Marilyn, mais est-ce qu'on peut se dire qu'on est arrivé à un niveau entendable, mais qu'il faut aller perfectionner, ou on est quand même vraiment là sur une société à deux vitesses?
Alors ça a avancé, mais ça avance vraiment tout doucement. Et c'est vrai que pour nous, c'est très, très long. Et on commence à en avoir marre, quoi, de ne pas pouvoir obtenir nos droits. Et sur beaucoup de choses, d'ailleurs. S'il y avait que l'accessibilité, ce serait bien.
Ah oui, c'est vrai. D'accord. Alors, on est sur l'accessibilité, mais il y a d'autres éléments. On y reviendra dans un petit instant. Ahmed, vous souhaitiez réagir à ces questions d'accessibilité?
C'est intéressant. Parce que pour moi, on dit, je travaille encore, mais j'ai remarqué un an pour rester encore avant. Par exemple, pour les gens handicapés, il n'y avait rien.
C'est-à-dire qu'effectivement, on a progressé parce qu'il n'y a encore pas si longtemps, il n'y avait vraiment rien. Enfin, je veux dire, ne serait-ce que la pratique sportive. Par exemple, elle était limitée. Aujourd'hui, on peut. Bon, Ahmed ne pourrait pas aller faire du ping-pong, ça on a bien compris, mais au moins, des personnes peuvent y aller, donc c'est bien.
Alors, attendez, oui.
Pardon, excusez-moi. Ahmed ne pourrait peut-être pas faire du ping-pong chez nous, mais je sais qu'il y a d'autres clubs qui sont adaptés pour, qui ont un ascenseur, ils sont en haut des escaliers, mais ils ont déjà du matériel qui est prévu pour les accueillir. Donc ça c'est faisable encore.
Mais par exemple, la police de Marais, ça m'intéresse beaucoup. Et j'ai remarqué, l'année dernière, j'ai été à Marseille avec mon groupe de gamins on a essayé la poser et ça j'ai adoré ça et quand je suis arrivé ici, je n'ai pas trouvé un moyen de faire ça.
C'est-à-dire que donc vous avez compris le début, hein, qu'il a essayé la plongée sous-marine
à
Marseille et qu'il a adoré, et qu'en arrivant ici, il a cherché à faire de la plongée sous-marine et qu'il n'a pas trouvé. C'est ça qui est difficile, en fait, pour le handicap. Tout est toujours plus difficile, les transports, l'information. Voilà, il faut réussir à trouver l'information. Aujourd'hui, on est dimanche, il n'y a pas beaucoup de bus. Hein, et voilà.
Alors, du coup, justement, c'est le rôle aussi des structures type APF. Il existe d'autres structures d'accompagnement. Oui. La Maison de la Santé sur Évreux, oui, également est un relais. C'est aussi le rôle de ces structures, j'imagine, d'orienter et d'y mettre les moyens pour pouvoir faciliter l'accès au loisir, parce que c'est, le loisir est essentiel, hein, c'est pas optionnel, hein, c'est essentiel le loisir, pour l'accès au loisir et puis au cadre de vie de manière générale, comme nous l'expliquait Marilyn.
Tout à fait.
On peut se rapprocher facilement, par exemple, si demain Ahmed demande aux APF ou à la maison de la santé où est-ce qu'on fait de la plongée, il a la réponse, par exemple.
Bah, il va pas se rapprocher de moi, il va directement aller demander.
J'invite effectivement
au club
à venir me voir après l'interview. Bon, après, nous avons la chance, nous, d'avoir des installations immobilières adaptées,
oui,
avec une rampe d'accès, avec une potence pour aider les personnes en situation de handicap à se mettre à l'eau, avec des vestiaires adaptés. On accueille aussi, parce que je sais que dans le champ du handicap, les gens ont souvent des auxiliaires de vie qui les accompagnent. On est capable de les accompagner, de les accueillir. On peut mettre en plus, quand c'est de la plongée en milieu naturel, ce qu'on appelle des auxiliaires de pont, qui viennent renforcer l'auxiliaire de vie pour faire des choses comme ça. Bon, après, en toute honnêteté, il y a quand même des limites. Il y a un minimum prérequis, puisque la plongée... J'ai toujours refusé de parler de la plongée comme un sport à risque. Je parle souvent de la plongée comme un sport technique avec des processus et des protocoles. Maintenant, comme effectivement, ce n'est pas notre milieu, un peu comme le parachutisme, il y a un minimum requis et que, malheureusement, je le déplore, parfois certaines personnes en situation de handicap, même en étant encadrées au maximum, ne présentent pas ce minimum requis. Donc après, ça serait totalement irresponsable de les emmener, ne serait-ce même qu'en piscine ou des choses comme ça. Donc, mais avec un avis médical, je pense qu'Ahmed est suivi par tout le staff qui va bien, on peut, pourquoi pas, étudier la possibilité pour Ahmed de venir prendre un baptême de plongée dans les prochaines semaines chez les Kawan.
Bon, on va voir ça après l'émission, parce que là, je vois ils sont en train de dire leur petite victoire entre eux.
Et vous aussi.
Voilà, non, mais c'est... Ah oui, Damien aussi, il est en train de se mettre sur sa plongée. Non, mais ça suffit, s'il vous plaît. En reprenons un peu de sérieux sur ce plateau et continuons d'avancer. Moi, je vais me retourner justement vers Damien. Et à la place de prendre votre cours de votre baptême de plongée sous-marine à la base 105, je vous propose d'envoyer un premier... Enfin, le micro-trottoir tourné par l'ami Jean-Jean autour des questions de cadre de vie et d'accès aux loisirs pour les personnes en situation de handicap.
Bonjour. Bonjour. Alors là, nous sommes à l'AFTC 27. Donc, c'est une association de famille.
Traumatisés crâniens.
Voilà.
Donc, cérébro-lésés.
Donc, on peut dire qu'on est en présence de personnes qui sont qui peuvent être en situation de handicap.
De handicap.
C'est ça.
Mais surtout, handicap invisible.
Oui, d'accord. Est-ce que justement, par rapport alors, à ces personnes en situation de handicap invisible, si on prend en compte leur cadre de vie, est-ce que vous êtes à même aussi de les accompagner dans la possibilité de leur proposer des loisirs ou les accompagner dans leur cadre de vie, tout simplement,
bien
dans
sûr.
Le petit côté fun, le petit côté sympa?
Oui, bien sûr.
Et comment vous procédez?
Alors, nous, tout ce qu'on procède, parce que dans l'association, nous avons un GEM, donc un groupe d'entraide mutuelle, c'est comme un café ouvert, et donc ce groupe-là permet que des personnes qui sont en situation de cérébro-lésée puissent déjà, entre eux, se retrouver. Et en même temps, il y a des animations, il y a des sorties, comme vous voyez. Hein, nous avons des sorties, des loisirs. Voilà, il y a des fois, je peux donner un exemple, on peut aller à un spectacle de danse, on peut aller. Et là, en même temps, c'est très important parce que, en fait, là, nous avons des inscriptions sur la danse adaptée. Parce que la danse adaptée, vraiment, la danse, c'est, moi je dis toujours, c'est un vecteur de bien-être. Et donc on y va dans ce genre de loisirs. Très important pour eux, parce que ça leur aide par rapport à leur bien-être. Après, il y a d'autres loisirs, hein, qui peuvent être par exemple le sport, comme vous avez dit. Et là, en fait, on est en train d'instaurer dans le 76 et le 27, de pouvoir faire par exemple, pourquoi pas la marche, pourquoi pas faire le vélo. Plein d'autres choses, le sport, la gym, adapté.
C'est formidable. Des activités pour des valides, mais qui sont adaptées
oui.
À la situation.
À la situation. Ok. Ah, oui, c'est ça.
Merci. Merci à vous.
Merci.
Voilà, c'était le public qui est sur le forum des assos qui répondait aux questions de l'ami Jean-Jean. Justement, cette question-là qui était évoquée sur la fin du micro-trottoir, on parle de sport adapté, on parle de sport, et à travers le C notamment, de sport ordinaire avec l'accueil de personnes en situation de handicap. Il y a un intérêt quand même au bout d'un moment, c'est quand on est en situation de handicap, j'imagine, de pouvoir pratiquer des activités dans un cadre ordinaire. J'imagine que ça doit être aussi essentiel de pouvoir mixer les publics et pas uniquement de cibler, même si j'imagine que le foot que propose Ahmed est, j'imagine, hein, après je me trompe peut-être, mais est un foot spécifiquement adapté parce qu'il est peut-être plus compliqué. Voilà, ouais, c'est Ahmed me le confirme. C'est plus difficile, j'imagine, de mélanger personnes ordinaires et puis personnes en situation de handicap sur du foot, par exemple. Mais il y a des activités comme le tennis de table, et Julie l'évoquait, et en fonction de certains handicaps, où c'est important aussi de le faire en mixte. Ma question était, cette pratique sport adapté est-elle intéressante aussi de la mixer, ou dans les espaces aussi, on évoquait les logements, plutôt que faire des résidences qui accueilleraient spécifiquement des personnes en situation de handicap, pouvoir faire aussi des lieux mixtes, on va dire. J'imagine que c'est important aussi, au bout d'un moment, de faire partie de la société ordinaire à tout instant, non? Je ne sais pas, peut-être plus Marilyn, Julie ou Ahmed sur ces réactions. Il est important aussi de faire partie de cette société ordinaire.
C'est l'inclusion qu'on a par moment et qui est très dur à supporter à la longue.
Comment ça? Dites-moi.
Parce que des fois, l'inclusion, c'est qu'on nous rejette plus ou moins parce qu'on est handicapé. Pas partout, heureusement, mais ça arrive encore. Hein.
Alors, quand on parle d'inclusion, c'est-à-dire inclure des personnes avec des spécificités de handicap dans le milieu ordinaire, et là, vous me dites que des fois, c'est compliqué à gérer.
Dans les bus de la ville, par exemple.
Par exemple, oui.
Les poussettes sont toujours à la place des fauteuils. C'est une bagarre. C'est de la bagarre continue que je fais, même pour des gens qui n'osent rien dire du tout et qui ressortent des bus. Je trouve ça quand même lamentable. Voilà, et puis il y a d'autres choses aussi. On ne veut pas qu'on soit sur la route, on fait chier les voitures, en parlant poliment. Quand on est sur les trottoirs, on dérange des personnes. Tout le monde, heureusement.
Mais alors, quelle serait la solution? Alors, pour la petite histoire, moi, qui prends souvent la rue de Vernon en voiture, et régulièrement, il y a des fauteuils qui sont sur la voie de circulation, on va dire, avec des trottoirs énormes sur le côté, mais impraticables en fauteuil.
C'est-à-dire
cette réalité-là aussi.
C'est-à-dire que vous allez avoir un bateau au début, mais arrivé à la fin, vous n'aurez peut-être pas de bateau.
Et du coup, impossible de descendre du trottoir
demi-tour, ou sinon c'est l'opposé. On a un bateau au début, mais on n'a pas un bateau à l'autre bout.
Question toute bête, sur Évreux, ça arrive ce genre de désagrément, c'est-à-dire prendre un bateau, prendre le trottoir, et puis au bout se rendre compte qu'il faut faire demi-tour pour reprendre la route. Ça arrive sur Évreux, par exemple?
Alors moi, ça m'est arrivé, oui, mais alors on est obligé de faire quasiment le même trajet pour ne pas se faire avoir à chaque fois. Finalement, on prend toujours le même trajet, on ne peut pas aller n'importe où.
C'est-à-dire qu'il va falloir bien repérer son trajet pour être sûr de ne pas avoir d'embûches.
Entre les poubelles, les qui sont des fois deux jours sur les trottoirs, entre les objets encombrants, les vélos, les voitures qui se garent pour téléphoner, c'est usant.
Ça, alors nous, on ne se rend pas forcément bien compte, forcément, quand on est valide et qu'on ne tourne pas avec un fauteuil roulant. On ne s'en rend pas forcément compte. Ça fait partie des choses qu'il faut vivre, je pense, pour s'en rendre compte. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des réponses à apporter, par exemple? Est-ce que vous, par exemple, Marilyn, vous avez des pistes de réponses à apporter aux institutions, aux gens qui s'occupent des routes, des déplacements, des équipements? Il y a des réponses à apporter aujourd'hui?
Oui, mais il faut aller voir la mairie. Et puis après, moi, je demande à mon association où est-ce qu'il faut aller, mais il faut faire un courrier. Leur expliquer les problèmes que ça pose. Et après, il faut que je le mette à mon nom d'abord. Et après, si ça ne marche pas, qu'on le mette au nom de l'APS. Mais c'est à chaque fois des réclamations tout le temps. Après, il y a eu des progrès dans le centre-ville d'Évreux. Mais c'est les petites rues, les petites routes surtout.
Vous êtes condamné à prendre que les grands axes?
Quasiment. Ou sinon, on fait des détours et des détours, c'est...
Oui, Ahmed, qui souhaitait réagir sur cette question-là.
Moi, on m'a dit amputer l'Amérique. Et il y a le roi qui veut rouler de la route. Mais il y a des gens en voiture qui ne confessent pas un déobligé rosé de la route. Et déjà, les gens, ils font du mal à comprendre. Il y a des gens, et quand je rejette la route, il y a des gens, ils m'ont gagné. Je dis, moi, je ne peux pas faire encore moins.
Mais effectivement, oui, l'accès à la route est compliqué.
C'est ça, voilà. C'est que. Donc, un fauteuil électrique a le droit d'aller sur la route, mais c'est quand même. Enfin, non, mais c'est par défaut, en fait. C'est-à-dire que normalement, c'est sur les trottoirs. C'est un piéton, c'est sur les trottoirs. Et donc, quand il se retrouve sur la route, eh ben, ça embête tout le monde. Ils se font engueuler, alors qu'ils ne souhaitent pas aller sur la route, en fait. En plus, c'est dangereux. Ils préféreraient tous être sur le trottoir comme tout le monde. Et voilà.
C'est ce que j'en ai saisi. C'est ce que j'en ai saisi également. Moi, je voulais voir aussi sur l'accès. Là, c'est vrai qu'on a parlé lieu de vie, cadre de vie, route, logement. On a abordé la question du loisir. Moi, un petit peu les deux pieds dedans. J'ai envie de me dire, est-ce que l'offre de loisir, l'offre d'accompagnement associative, parce qu'il y a voilà, souvent les personnes en situation de handicap se rapprochent d'associations qui permettent de faire entendre la voix, qui permettent de faire entendre les besoins également. Est-ce que l'offre aujourd'hui, sur une ville comme Évreux, sur une agglomération, ou peut-être plus largement au niveau national, parce que quand on est les APF, c'est quand même une structure nationale qui a des délégations, notamment départementales, mais est-ce qu'il y a un maillage suffisant ? À quoi sert ce maillage ? Est-ce que ce maillage, ou de structures sportives, ou de structures éducatives, ou de structures d'accompagnement, est-ce que ce maillage est suffisant ? Est-ce qu'il permet d'avoir une amélioration du cadre de vie ou un accès aux droits ou aux loisirs de manière correcte. Je vais me tourner peut-être plus vers Marilyn, Ahmed et puis Julie. Est-ce que finalement, on arrive à accéder à ces droits ? Est-ce qu'on arrive à accéder à des loisirs, à tout ce qu'il faut finalement ? Julie ?
Moi, ça ne m'a pas posé de problème d'intégrer... parce qu'en fait, j'ai été accompagnée par Jean-Michel qui s'occupe du sport adapté depuis un certain temps. Et en fait, j'étais au club de la Jeune d'Arc avant et ça se passait très très mal, justement parce qu'il ne m'accompagnait pas en sport adapté. Et du coup, depuis que je suis à l'EEC, c'est beaucoup mieux parce que Slimane est toujours là. Et même quand je pars en compétition avec les autres coéquipiers, moi j'ai ma voiture, tout ça, mais je me fatigue vite. Donc pour conduire, c'est un peu compliqué, mais il y a toujours quelqu'un pour m'emmener en compétition. Ou des fois, j'encadre les jeunes aussi. Et du coup, ça me pose pas de problème particulier. J'ai été très bien intégrée au club, en fait.
Sur l'accès aux loisirs, l'accès aux droits, l'accès à tout ce qu'on peut faire valoir, en fait, une vie la plus paisible possible, quoi, en fait, la plus épanouie possible. Est-ce qu'on a accès à tout ce qu'il faut pour accéder ?
À la sous-commission d'accessibilité, il y a beaucoup de salles de sport qu'on a en dossier pour justement l'accessibilité. Ça, il y en a de plus en plus. Voilà. Les écoles aussi, ils demandent à ce que ce soit adapté aussi. Mais après, si voilà, les travaux ne peuvent pas être faits parce que ce n'est pas possible à cause de certains trucs, il y a déjà eu des refus de dossiers. Rien que pour un truc de pompier. Qui a le long du mur, là, qu'on branche le tuyau, là.
Les bornes d'incendie, oui.
Ouais, rien qu'à cause du sang, une banque n'a pas pu le faire, et des arbres qui étaient sur le trottoir.
D'accord. Donc oui, il y a quand même des freins, mais le tissu, on va dire institutionnel, associatif, d'ailleurs l'associatif est très présent sur ces questions du handicap, hein, d'ailleurs peut-être même plus peut-être que l'institutionnel.
Ça avance, mais pour nous c'est très très long quoi. C'est très très long. Quand on voit certains pays en étranger, ils ont tout adapté et que nous on est à la recul de 10 ans derrière quasiment, voilà.
C'est ça, on aimerait bien les regagner ces 10 ans.
Oui, exactement.
Très bien. Sur l'accès associatif, est-ce que par exemple, vous, Ahmed, vous avez eu des problématiques à trouver le club de foot adapté? Est-ce que vous avez eu des problématiques pour trouver un logement, pour trouver tout ce qu'il fallait? Et est-ce que le tissu associatif, est-ce que finalement les associations desquelles vous êtes rapprochés étaient suffisamment nombreuses ou proposaient les services dont vous aviez besoin, Ahmed?
Le poème quand on connaît bien le vin, mais quand on connaît pas, quand ça veut dire quand on connaît bien et on peut pas aller sur Internet.
Justement, la question, c'est de trouver cette information. On la trouve où, la première information? Par exemple, vous, Ahmed, la première information, elle est venue d'où?
Moi, le but, c'est par hasard.
Par hasard, oui.
Par hasard, je dis, j'avais la délégation. Je dis, moi, je m'aurai un foot, mais je débarque comme mon frère. On m'a aidé, mais je pourrais, c'est pas ça, je pourrais, c'est Dieu. Je les autres, pour moi, c'est un peu compliqué. Quand on se balaye, c'est compliqué. Mais du coup, il y a ce blessé, il dit oui. Sur Internet, il y a beaucoup de choses, mais quand je parlais, quand je vais vous aller, c'est compliqué.
Je pense que tout le monde a compris.
Oui, oui,
c'est, voilà, la recherche d'informations, encore une fois, est compliquée. Alors, par rapport à Internet, Ahmed dit ne pas savoir lire, mais c'est... Enfin, malvoyant, c'est compliqué, Internet, la difficulté de compréhension, même quand on sait lire, ça peut être la compréhension, voilà, et la manipulation d'Internet. Manipuler Internet avec une souris, ça demande de la dextérité, un handicap physique, ça peut être compliqué. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de freins et de difficultés à aller chercher l'information.
Oui, vous vouliez réagir, Xavier?
Alors, pour la partie plongée sous-marine, je sais que déjà, l'enseignement de la plongée pour les personnes en situation de handicap repose essentiellement sur le tissu associatif. Il y a une commission nationale au sein de la Fédération française d'études et de sports sous-marins, mais, et je ne leur en veux pas par contre, pour les structures commerciales et professionnelles, elles ont une approche qui est certes différente, étant donné que l'enseignement de la plongée pour le personnel, pour la personne en situation de handicap, comme je l'ai dit au début, demande beaucoup de moyens humains et matériels. Donc je ne suis pas certain que ce soit la visée des structures commerciales, et je trouve ça normal. Maintenant, effectivement, l'accès, on peut le trouver essentiellement par Internet, avec les moteurs de recherche. Je peux comprendre que certaines personnes aient des difficultés, ne serait-ce même que pour aller sur Internet. Mais voilà, après... oui, on a une approche, nous, côté plongée, essentiellement associative. Et puis, ben, j'invite un peu toutes les personnes qui évoluent dans le champ du handicap, que ces personnes soient handicapées ou des accompagnateurs ou des choses comme ça, à regarder sur Internet. Et un peu partout en France, il y a des clubs qui offrent la possibilité, je répète, avec certes à un moment une limite, voilà, mais j'en suis le premier, désolé, mais il y a beaucoup de clubs qui offrent la possibilité de découvrir. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, l'objectif de la plongée sous-marine, qu'on soit une personne valide ou en situation de handicap, c'est d'aller voir des choses au fond de l'eau, des belles choses, des poissons, voilà. Et donc, à un moment, quand nos collègues, nos amis plongeurs en situation de handicap ont rassemblé les prérequis nécessaires, bah, dans une palanquée d'exploration, quand on veut aller voir des beaux poissons, voir des épaves, eh bien, il n'y a plus de différence. On a un moniteur, un guide de palanquée, qui est une personne valide, mais qui peut emmener indistinctement, tout en respectant les règles, aussi bien des personnes valides qu'une ou deux personnes en situation de handicap. Et là, il n'y a plus de différence.
Ça, je vous le confirme. J'ai eu l'occasion de faire, moi, une première plongée une fois où c'était le moniteur qui me promenait. J'avais perdu tous mes repères. Impossible d'aller à gauche, à droite ou peu importe où, ou trouver une posture. C'était bien le moniteur qui me promenait. Ça s'est arrangé après. Hein.
Et moi, je peux vous dire que j'ai assigné à des personnes tétraplégiques qui, après un certain nombre de séances, savent se débrouiller toutes seules.
Ben voilà, comme quoi. Marilyn, oui, je vous en prie, Marilyn.
Et aussi, ce que je trouve pas normal, c'est quand on veut faire des locations d'hôtels pour faire des séjours, qu'on ait des surprises quand on arrive dans les chambres. Parce que moi, ça m'est arrivé avec un séjour à l'APF. C'est de ne pas avoir la douche PMR.
Personne à mobilité réduite. Tout à fait. Oui, et du coup, bah, une douche, j'ai envie de dire ordinaire, bah, c'est plus compliqué forcément quand on est en situation de handicap.
C'est plus compliqué, tout ça. Alors, j'étais obligée d'aller dans la douche de mes collègues.
Ben voilà, ben c'est ça. On tape à la porte d'à côté et on dit, votre douche, elle est comment là? Parce qu'elle m'intéresse.
Oui, mais on a des surprises hein, quand même.
Pour arriver sur cette fin d'émission, je voulais revenir sur une notion que j'ai l'impression qui évolue, et notamment sur le sport adapté. On a eu l'occasion de voir les Jeux Olympiques il y a très peu de temps, et les Jeux Paralympiques, j'ai trouvé qu'ils étaient de plus en plus mis en avant, qu'ils commençaient à intéresser le grand public, ou peut-être le public de personnes en situation de handicap, je ne sais pas, mais en tout cas, ça intéresse de plus en plus, j'ai l'impression qu'on en parlait. À une époque, c'était même absent du paysage médiatique, ces Jeux paralympiques. J'y pense parce qu'il y a quelqu'un qui a coupé le souffle, notamment au tennis de table, un Égyptien, je crois, qui a vraiment été le symbole, justement, de persévérance, même, parce qu'au bout d'un moment, les conditions de jeu de cet Égyptien, c'est qu'il joue avec la raquette à la bouche et des services avec le pied. Enfin, c'est un truc totalement improbable. Enfin, pour nous, valide, je ne me verrais même pas tenter, ne serait-ce que l'expérience. J'ai la sensation, en tout cas, que ces questions autour du handicap, de la performance sportive dans le handicap, parce qu'on est vraiment dans la performance sportive aussi, sur le sport adapté, commencent à être mises en avant, commencent à être apportées au grand public. Et j'ai la sensation que ça fait bouger un petit peu le regard, quand même.
Moi, je trouve sincèrement que c'est le juste retour des choses. On les a cachés pendant des années. Maintenant, ils sont... Moi, j'ai découvert ce milieu du sport adapté... La première année, quand j'en ai fait un bilan, je me suis dit, mais il y a des fois, je préfère travailler avec Julie, avec Maude, parce qu'il y a vraiment cette envie d'aller se dépasser, d'aller chercher plus loin, hein, et pratiquer vraiment avec plaisir le tennis de table. Et donc, on va dire, ce bilan que j'avais fait, ça m'a un peu étonné, quoi, personnellement. J'ai vraiment découvert ça comme ça, ça m'est tombé sur la tête, et j'ai eu envie de continuer beaucoup plus loin derrière. Donc, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, quand je vois à la télé tous ces athlètes qui performent et qu'on met en avant, je trouve que c'est vraiment ça, le juste retour des choses. Voilà, on peut leur dire bravo.
Vous êtes sensibles, vous tous, dans les milieux. Alors, Maxime me dit que c'est sur le sport adapté, c'est ça? C'est sur les Paralympiques, on dit 54 médailles à Tokyo. L'objectif était 35, hein, Maxime me redit ça. Et c'est, oui, c'est ça, pour la France, bien entendu, 54 médailles aux Jeux Olympiques. C'est par exemple une information qu'on a aujourd'hui, très facilement. Elle est médiatisée, cette information, tout le monde y a accès. il y a 10 ans de ça, on n'avait même pas idée de savoir s'il y avait des médailles ou pas pour une équipe de France en paralympique. On ne savait même pas s'il y avait une équipe de France paralympique d'ailleurs il y a encore une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on a les résultats. C'est quand même le regard qui change, j'imagine, et c'est plutôt une bonne chose. Je ne sais pas, il n'y a pas de question, une fois de plus, je pose une thématique sur la table, mais Guillaume, des APF.
Juste me permettre de dire qu'effectivement, c'est une évolution extraordinaire et que, on espère ne pas attendre 10 ans encore pour que les Jeux paralympiques soient complètement intégrés aux Jeux olympiques comme des épreuves à part entière et que ce ne soit pas des Jeux qui arrivent dans un deuxième temps après, comme si, pour reprendre les mots d'un collègue, comme si c'était les remplaçants qui jouaient. Voilà, on espère que les Jeux paralympiques deviendront les Jeux olympiques au même moment et au même titre. Et là, on sera sur une belle inclusion.
C'est quand même quelque chose qui, enfin, je ne sais pas, là, Julie, Ahmed, Marie-Lyne, c'est quand même quelque chose qui est encourageant, non, j'imagine, quand on voit tout ça, quand on voit comment les Jeux olympiques, les paralympiques sont mis en avant.
Un monde valide, ils se prennent trop la tête. Quand en sport adapté, on se prend pas du tout la tête.
Il y a un meilleur esprit en sport adapté, c'est ça.
Moi, quand je pars en compétition en monde valide, je trouve que les gens, ils sont moins sympas. Qu'en sport adapté, c'est la fête tout le temps, quoi. La fête tout le temps.
Mais c'est ça, faisons du sport adapté. En fait, arrêtons le sport valide. Hein. C'est important, cette notion-là.
C'est important aussi, le monde valide. Mais je trouve que... Moi, quand je vais jouer en National 2, par exemple, en Critérium, c'est pas du tout la même ambiance. Ils vont jouer pour gagner et pas pour se faire plaisir. Voilà.
Et en sport adapté, on trouve plus cette notion de plaisir. Xavier ?
L'avantage de la plongée, c'est qu'on est un sport sans compétition.
Ah oui.
Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de compétition. Il va y avoir quelques disciplines annexes de la plongée qui vont entrer aux Jeux Olympiques 2024, en particulier l'apnée, mais à l'origine, on est un sport sans compétition. Donc la différence qui vient d'être citée, nous, on ne la vit pas. Il n'y a pas d'enjeu mercantile derrière, il n'y a pas d'enjeu financier. On est juste là pour le développement personnel, physique ou psychologique, ou physique et psychologique, aussi bien pour les personnes valides que pour les personnes en situation de handicap.
Ahmed, vous souhaitiez réagir sur ces encouragements du sport, notamment, et des Jeux paralympiques ?
Oui. J'avais raison. Quand on joue, un poste de bord handicapé, on joue pour s'amuser. Mais quand il y a la compétition, mais c'est pas pareil.
Il n'y a pas de gars.
On rigole, c'est pas pareil. Et c'était...
Effectivement, gagner, perdre, c'est s'amuser l'essentiel. Et c'est tout l'intérêt de passer un bon moment, effectivement. Marie-Lyne, et puis ce sera le mot de la fin, parce qu'on déborde, vous voyez, on déborde. On se disait avec Slimane au début d'émission, non mais une heure, ça va être long. Mais non, en fait, c'est trop court, hein, Slimane, hein, on a la confirmation quand même. Hein. Marie-Lyne.
Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur l'handicap.
Tout à fait.
Et ce que je vais revenir à ce que monsieur disait, c'est qu'on se contente de ce qu'on a. Parce que plus on avance, plus on réussit, plus on est content.
Et bien voilà, continuons de réussir et d'avancer et nous en serons que plus contents. Merci beaucoup à vous. Ce sera l'occasion, si nous le souhaitons, de refaire des émissions autour de ces thématiques qui nous tiennent à cœur, hein, Principe Actif. Alors, on avait autour de la table aujourd'hui, on avait Xavier, moniteur de plongée spécialisé dans le handicap de chez Kawan Handi Plongeur. Nous les avons reçus un paquet de fois à nos micros, Kawan Andy Plongeur. Mais ce sera un plaisir de poursuivre, bien entendu. Nous avions c'est l'Hébreux étudiant Cercle, qui propose du tennis de table en adapté, mais aussi en ordinaire. Hein. Voilà, c'est un club qui mixe et les joueurs valides, les joueurs ordinaires, et les joueurs en situation de handicap. Nous avions Julie, avec un palmarès pas possible quand même, qui joue en équipe de France tennis de table en sport adapté. Merci à vous d'ailleurs, Slimane et puis Julie, d'avoir passé ce moment avec nous. Et puis nous avions aussi Ahmed et Marilyn qui sont des APF. Merci beaucoup d'avoir témoigné également de ce vécu, de ces coups de gueule aussi, Marilyn, et vous avez bien raison d'en pousser à l'occasion. C'est avec plaisir que nous pourrons en repousser sur nos antennes. Merci à vous, Guillaume, également directeur des APF, l'antenne hébroïcienne, d'avoir été à nos micros aussi. Et vous avez vu, on n'a pas dit grand-chose. Hein. C'est Marilyn et Ahmed surtout qui nous intéressaient d'entendre. Merci à vous, Xavier, également. À la radiopropulsion de cette émission, c'était l'ami Damien à la réalisation. Et puis, pour ceux qui nous écoutent sur Internet, vous avez la playlist et puis vous nous retrouvez à partir de 14h30 à nos micros. Et pour ceux qui nous suivent sur le Facebook du Bige, c'est Maxime qui va recevoir de nouveaux invités, qui va continuer à vous faire vivre ce forum des associations.